France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Il y a des artistes qui disparaissent quand ils se taisent. Et puis, il y a Rihanna. 10 ans, 10 ans que Anti est sorti, 10 ans que Rihanna n'a pas publié d'album. Et pourtant, jamais son nom, son image, son influence n'ont quitté nos vies. Rihanna, c'est plus de 250 millions de disques vendus, une flopée de morceaux numéro 1, des tubes qui ont marqué les années 2000 et 2010. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, une artiste qui a décidé un jour de dire stop à la machine à hit pour écouter autre chose. Ses instincts, ses silences, ses contradictions. Anti, donc, sorti en janvier 2016, il y a 10 ans, c'est ce moment-là, un album déroutant, parfois incompris, loin de la pop clinquante qu'on attendait d'elle. Un disque plus lent, plus trouble, plus libre aussi. Un disque qui, 10 ans plus tard, n'a jamais quitté les classements et est devenu un classique inattendu. Ce soir, on va donc prendre le temps de revenir sur le parcours de Rihanna, de ses débuts à la Barbade, à son statut de superstar mondiale, de femme d'affaires, d'icône culturelle et surtout, le temps de replonger dans Anti, ce qu'il racontait à l'époque, pourquoi il a divisé et pourquoi il résonne peut-être encore plus fort aujourd'hui. Avec moi aujourd'hui, des experts, pas peur de le dire, Elena Oliveri qui tient le podcast Remember the Times. Bonsoir Elena.
Bonsoir, merci de me recevoir.
C'est normal. Jennifer Padjini, journaliste, autrice, critique culturelle. Comment ça va Jennifer?
Ça va très bien, merci de me recevoir.
Très content de t'avoir. Et Jay qui a fondé le podcast R&B Renaissance, qui est aussi curateur musical. Ça c'est cool, j'aime bien, c'est un bon poste, un bon sujet poste.
Franchement ça sonne bien.
Ouais c'est cool, tu vas bien?
Très bien, merci.
Bon. L'émission spéciale Rihanna, c'est tout de suite à La Régulière.
France Inter. Régulière, Mehdi Maizi.
Bien écouter évidemment un morceau que la galaxie entière connaît, Umbrella de Rihanna. Avant de parler un peu de sa musique, j'aimerais juste commencer avec vos souvenirs. Comment est-ce que vous découvrez Rihanna? Jennifer, est-ce que c'est quoi tes premiers moments avec elle? Est-ce que tu l'aimes tout de suite, Rihanna?
Je me souviens de Pon de Replay, qui est son premier titre qu'il a vraiment propulsé sur la scène internationale, où elle est arrivée de la Barbade. C'est vraiment le tout premier souvenir que j'ai d'elle. Et ce qui est intéressant, c'est que au départ, je la mettais plutôt dans les artistes très commerciaux, plutôt taillés pour de la musique de club presque. Et d'ailleurs, Pon de Replay reprend ça avec des sonorités caribéennes. Enfin, on danse, son clip, il danse. Et c'est vrai que pour moi, je l'associe à la période lycée et à une période très très festive de la musique commerciale.
Alors, vu que tu cites Pon de Replay, on va écouter un court extrait de ce tube énorme à l'époque. Elena, c'est quoi toi ton premier souvenir avec Riri?
Je suis très jeune à l'époque, attention, j'ai même pas, je pense, j'ai 10 ans et je regarde énormément de clips à la télé, donc c'est vraiment comme ça que je vais la découvrir. Et pour moi, elle rentre dans toutes les cases de la pop star parce que je la vois danser, je la vois chanter et moi-même j'ai envie de faire la même chose devant ma télé. Donc au début je l'aime bien, mais elle ne vient pas nourrir un besoin dans mes écoutes particuliers.
T'es pas spécialement fan au début, c'est une pop star de l'époque. Et toi Jay?
Pareil, je l'ai vraiment découverte avec ce morceau-là aussi, et le clip, vraiment histoire similaire. Et aussi l'affiliation Jay-Z.
Je voulais en parler parce que moi personnellement, c'est vrai qu'à l'époque, c'est beaucoup ça, c'est que Jay-Z la signe, enfin toute l'histoire autour de ça. Oui, toi aussi, c'est ce qui t'amène peut-être vers Rihanna, c'est le nom de Jay-Z.
En tout cas, il y a vraiment quelque chose où je me dis, ah tiens, elle est dans le bon camp, entre guillemets.
Ouais.
Donc une affection tout de suite naturelle.
Justement, à l'époque, elle est signée très très jeune aussi. Est-ce qu'on peut raconter un moment, parce que comment elle est repérée notamment par Evan Rogers, qui produit aussi le premier album, Music in the Sun, dont d'ailleurs ce morceau est tiré. Comment ça commence pour Rihanna, Jennifer, Jay?
Vas-y.
Vas-y, vas-y.
Alors, comme tu l'as dit, effectivement, elle a été repérée par Evan Rogers,
ouais.
qui va l'emmener du coup aux États-Unis. Elle va quitter sa Barbade natale. Et ils vont faire le tour, en fait, de plusieurs labels où ils vont essayer d'aller chercher un deal. Et l'histoire dit qu'elle aurait chanté une chanson de Whitney Houston.
Exactement.
Dans une réunion avec Jay-Z. Et qui lui a dit que le seul moyen pour toi de sortir d'ici, c'est si tu signes ce contrat.
Ouais, voilà. ce qui est terrifiant.
Ouais. C'est, de la
c'est vraiment terrifiant. Mais c'est vrai que ces moments aussi, c'est un moment particulier dans la carrière de Jay-Z où Jay-Z devient un mogul, patron de Def Jam, etc. Mm-hmm. Et donc, il a aussi une autre image. Et Rihanna fait vraiment partie de cette époque-là. Ça fait partie des premiers talents que Jay-Z vraiment met en avant en tant que super producteur businessman. Ce premier album-là, tu l'as dit, Jennifer, il est très solaire, effectivement, il y a beaucoup d'influences, dancehall, jamaïcaine, etc. Ce qu'on va moins retrouver dans les albums qui vont suivre, est-ce que tu as le sentiment que très vite, on va en parler après, mais qu'elle est peut-être aussi formatée qu'il y a un... Moi, c'est un peu comme ça que je le vois à l'époque. Est-ce que... Et puis, elle est très jeune, donc elle n'est peut-être pas encore complètement accomplie en tant qu'artiste, elle n'a peut-être pas encore le temps, peut-être même la place d'imposer sa vision. Est-ce qu'à l'époque, il n'y a pas aussi ça dans sa carrière, un côté peut-être très formaté par l'industrie, parce que l'industrie attend à l'époque ?
Complètement, et je pense que tu as choisi le bon mot, c'est que elle n'a pas la place pour le faire parce que déjà elle est jeune.
Ouais.
Elle arrive d'une île des Caraïbes où clairement elle a pas forcément la culture locale des États-Unis, donc on lui dit ce qu'il faut faire.
Ouais.
Et très vite en fait on voit que dans ses sons, même s'ils sont intéressants, ça vient pas forcément d'elle, c'est aussi ce qui fonctionne à l'époque, c'est ce qui fait danser, c'est ce qui va faire en sorte qu'elle a des hits à chaque fois. Et on remarquera, on en parlera tout à l'heure avec Anti, c'est qu'elle a mis plusieurs années à le faire, à le produire, alors que toute la carrière de Rihanna, en tout cas les 10 premières années, c'est un album par an.
Exactement.
Et donc on voit
que... Parfois, je crois que ça sort en moins d'un an, des fois.
Enfin, c'est ça. Ouais.
C'est vraiment industriel.
On n'a pas le temps, en fait, de digérer ce qu'elle fait. Dès qu'il y a un son qui sort, qui devient numéro 1, hop, il y a un nouvel album. Et c'est intéressant de voir que chaque album représente aussi une coiffure ou un style de Rihanna. Et c'est vrai qu'en 10 ans, il y a une accélération de l'artiste en tant que produit.
Ouais.
Et c'est ce qu'elle raconte aussi, finalement, dans Anti, qui est le point final, ou en tout cas le point virgule.
Point final, on ne sait pas encore. Mais...
Le point virgule de sa carrière. Et c'est vrai que Rihanna égale popstar pour cette raison principale, ouais. parce qu'elle enchaîne les morceaux, les tubes, et on la voit de cette manière.
Elena, hors antenne, d'ailleurs, justement, tu me disais que cette période-là, c'est aussi quelque chose qui, toi, peut-être même, t'agace un peu en tant que spectatrice, et je te rejoins un peu, c'est-à-dire qu'on la voyait beaucoup. Moi, je t'avoue qu'à l'époque, j'écoutais pas vraiment ses albums, je voyais les tubes, et donc je pouvais avoir un avis biaisé sur ce qu'elle était, sur ce qu'elle représentait, ce qu'elle incarnait réellement. Je voyais une pop star un peu omniprésente. Je crois que toi, c'est un peu pareil, que t'avais un peu de mal avec elle à l'époque.
Totalement ça. Et c'est vraiment le cœur de mon travail, même dans mon podcast Remember the Time, parce que j'assume, je ne suis pas une personne de la première écoute. J'ai besoin de digérer un projet, de voir l'impact culturel qu'il a eu pour mieux le comprendre.
Ça veut dire que quand on écoute un album avec toi pour la première fois, faut pas te croire, quoi. faut attendre 6 mois avant d'avoir un vrai avis.
Non, je peux avoir de gros coups de cœur, mais c'est vrai que j'ai vraiment besoin de voir l'artiste exploiter son travail à 100%, le voir sur scène, le voir faire des clips, et elle le faisait, mais c'était très rapide.
Mmh.
Donc ça, c'est un peu une musique fast-food, et j'arrivais pas à m'accrocher à elle.
Et puis je pense qu'elle suit aussi parfois les tendances du moment.
Totalement.
Là où on y reviendra avec Anti, qui n'est pas... Enfin, évidemment, il y a des tendances de 2016, mais je veux dire, elle est très libre dans l'album, alors que sur l'album précédent, on sent que tu parlais de... On pourrait parler d'era, en fait, on parle de coiffure, mais aussi en termes de sonorité. Elle bosse avec les producteurs du moment, etc. C'est vraiment ça, à cette époque-là.
Et chaque projet que tu écoutes, encore maintenant, ces anciens projets, je parle, attention, ils sont tous anciens, mais tu sens qu'ils appartiennent à une certaine era. Là où Anti... t'as un peu du mal à le dater et tu peux très bien même l'écouter maintenant, ça vieillit bien.
Tu es d'accord avec ça, Jay ?
Totalement, totalement. Et je pense que Rihanna, c'est aussi l'incarnation un peu de ces derniers artistes qui ont bénéficié de l'attention de tout un système qui a mis les meilleurs compositeurs, compositrices autour d'eux, les meilleurs auteurs, autrices autour d'eux.
C'est presque une figure d'un ancien temps aujourd'hui,
exactement,
en fait.
Exactement.
La pop n'est plus vraiment comme ça.
C'est ça, quand on parle de développement artistique, c'est clairement une des dernières preuves de l'industrie qui a dit ok, sur cette personne-là, on va mettre toute notre énergie et on va miser sur elle, quoi.
Bon, puisqu'on parle de Rihanna et d'Anti, on va avancer un petit peu dans le temps. On va écouter un morceau de cet album. C'est Love on a Brain, qui est une ballade extraordinaire. On s'écoute ça. Love on a Brain, donc morceau qui a 10 ans déjà. C'est fou comme
c'est
ça.
Fou, c'est
on
fou.
S'écoute ça. Rihanna, Love on a Brain. Et juste après, on continue de retracer et de tirer le fil de sa carrière.
Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste.
C'était donc Love on the Brain, extrait donc de l'album Anti de Rihanna.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Je suis avec Jennifer Elena Oliveri, et on parle donc de Rihanna. On a un petit peu rapidement parlé du début de sa carrière, notamment de l'album Music of the Sun, que j'aime beaucoup par ailleurs. Et puis après, on a dit que Rihanna va devenir très rapidement une énorme pop star avec un enchaînement de tubes, avec notamment des morceaux comme celui-ci, Don't Stop the Music. Ou encore celui-là, Only Girl You Know.
Like I'm the only one that you'll ever love. Like I'm the only one that knows your heart. Only one.
tellement de souvenirs de sombres soirées. Vraiment, là, c'est, ça me rappelle une époque, là.
Oh là, là.
Le début des années 2000, vraiment 2010, 2011, tu vois, c'est très sombre. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais quelque chose, Jay, sur peut-être une autre époque de la pop, et on l'entend déjà en termes de sonorité, bien sûr, c'est des morceaux qui sont datés, sans forcément que ce soit péjoratif, mais qui vraiment appartiennent à une autre époque, mais aussi dans la manière dont ils ont été construits, effectivement, peut-être aussi assez impersonnels. À l'époque, toi, comment tu... Parce que là, tu commences à grandir aussi à ce moment-là, et je pense déjà à développer ton œil critique. Comment tu vois l'artiste Rihanna à ce moment-là, quand tu la découvres, quand elle enchaîne les albums, qu'elle arrive sur des albums comme Good Girl Gone Bad, etc. Comment tu la vois, toi, en tant que spectateur?
Moi, vraiment, je la vois en hitmakeuse et je la vois en un peu interprète suprême. C'est comme ça que dans ma tête, en tout cas, je la
range. Et c'est comme ça aussi qu'on sait qu'il y a des gens qui écrivent pour elle, ce qui est très courant dans la pop, hein, c'est pas uniquement le cas pour Rihanna, donc tu la vois vraiment comme une interprète surtout.
Exactement, exactement, et c'est l'individualité en tout cas, ou la singularité que je reconnais. Elle a un timbre qui est hyper identifiable. Quand Rihanna ouvre la bouche, tu sais que c'est elle qui chante. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que je la range dans ma tête, et je me dis, je sais que chaque année, Rihanna va nous donner un hit ou plusieurs hits, tout simplement.
Toi, Jennifer, comment tu vois ce moment de sa carrière, justement ?
Je le vois comme une personne qui grandit, en fait, sous nos yeux. Elle est passée de 16 ans à 27 ans, et aujourd'hui, elle en a 37. Et on voit, en fait, cette évolution par rapport même à ce qui se passe en dehors de la musique. Elle devient une fashion icon. Elle reçoit même le SFDA en 2016, il me semble. Elle fait le show sur les tapis rouges, le Met Gala. C'est un peu devenu son Met Gala elle. On l'attend tout le temps. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'elle est plus que ce qu'on veut la réduire. C'est pas qu'une artiste pop qui enchaîne les tubes.
À quel moment pour toi elle devient une boss, justement ? Parce qu'aujourd'hui, Rihanna, on a tous cette image-là de c'est une boss, elle fait ce qu'elle veut, etc. Mais on n'avait pas cette image-là du tout il y a 15 ans, 20 ans, tu sais, où effectivement il y avait ce côté peut-être même parfois produit de l'industrie. Comment ça devient une boss selon toi, selon vous ?
Je pense que la manière dont elle est sur Instagram déjà montre aussi son talent d'être une personne qui est au-delà du moule dans lequel on veut la mettre. Alors oui, forcément, l'industrie de la musique, c'est faire des tubes et c'est gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas que ça. Et très vite, on voit que ses paroles, le choix de ses titres, la manière dont elle s'habille, ses coiffures, sa présence en ligne, mais aussi je pense que c'est un peu un tournant Bitch Better Have My Money, qui est une manière en fait de dire j'ai plus le temps pour
qu'elle n'a même pas mis sur l'album entier.
C'est
un morceau qu'elle a lancé comme ça, qui est un morceau extraordinaire, qui n'est même pas sur un album.
Et c'est vrai que dans les paroles, dans le clip, dans tout cet environnement de ce titre, il y a un peu l'idée de dire stop. Enfin, là, j'ai envie de revenir à qui je suis vraiment. Et si vous n'avez pas compris, je vais vous le montrer d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que ça, c'est une bonne transition entre la Rihanna ado qu'on a connue et celle qui devient femme.
La boss lady.
Voilà,
pour reprendre une expression à la mode. Bon, vu que tu as cité ce morceau, on va écouter un extrait de Bitch Better Have My Money. Elena, est-ce qu'il n'y a pas finalement au départ eu presque une erreur sur Rihanna ? Parce que moi je me souviens qu'elle était présentée comme une artiste R&B. Tu sais, en fait on disait que c'est du R&B presque par commodité, parce qu'elle était peut-être proche de gens justement du rap, du R&B. En fait elle a directement dès le début été plus large que ça en fait, et vraiment une artiste pop qui a touché à plein de genres musicaux. Est-ce qu'il n'y a pas au départ presque une erreur ? Parce qu'elle a fait du R&B, mais elle a jamais fait que ça, et en fait elle a jamais fait d'album purement R&B. Il n'y a pas une erreur là-dessus finalement sur la manière de la présenter au départ, en tout cas ?
Alors il y a une erreur, oui, mais il n'y a pas eu d'erreur dans sa discographie, et je trouve ça fou, parce que même en enchaînant tous les projets, ils ont tous fonctionné. Donc ça, c'est sa force. Et je me rappelle d'un autre truc, quand on pense à Popstar, enfin du moins moi, l'image que j'en avais, c'était Britney Spears, c'était Beyoncé, donc c'est des gens vraiment identifiés, qui ont même des chorégraphies iconiques. Rihanna n'en a pas du tout.
C'est vrai. Elle n'a pas cet aspect-là.
Non, pas du tout. Et je me souviens, parce que bon, peut-être parce que je faisais de la danse aussi, j'attendais qu'elle danse dans ses clips. Et je me souviens avoir compté combien d'années, alors maintenant je sais plus, mais la dernière fois que je me rappelle la voir danser, c'est dans Where Have You Been. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué, je pense, en tant qu'auditrice. et ça a quand même fonctionné. Tu vois, genre les sons passaient en club, elle faisait des hits, alors qu'il n'y avait pas cet aspect-là de danser. Oui.
Donc elle a déjà peut-être un peu déconstruit ce coda.
Exactement.
Quand on est une pop star, il faut danser et faire des chorégraphies, ce qu'elle n'a jamais fait. On parle de Rihanna jusque 23h. Encore un tube, hein. Il y a que des tubes.
Je crois que c'est mon clip préféré. Hein,
votre clip préféré,
ouais, ouais, je pense. Il est fou, okay. Ouais.
Tu parlais de chorégraphie, Elena. Est-ce que vous l'avez vue sur scène, Rihanna?
Non.
Jamais, moi non plus.
Non plus.
Ok, ouais. D'accord. Donc,
je trop deck.
Il y avait aussi ça parce qu'elle a fait le Stade de France, etc.
Oui, oui, oui.
Et moi, je l'ai jamais vue non plus. Parce que, mais en tout cas, ce que j'avais entendu, c'est que justement, c'était parfois un show qui était sûrement spectaculaire, mais aussi plus minimal que. Pardon pour la comparaison un peu évidente, mais Beyoncé, à qui on les compare souvent, parfois pour de mauvaises raisons, où là, c'est, tout est très, très chorégraphié et très spectaculaire. Je crois qu'elle, c'est surtout son charisme, en fait. Mm-hmm. Et pour moi, des fois, elle a presque une attitude de rappeur ou de rappeuse. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'aura. Et d'ailleurs, Bitch Better Have My Money, qu'on a entendu avant, c'est un morceau de rap, en fait. C'est un morceau de trap de 2015, sauf que c'est incarné par une pop star. Mais il y a vraiment quelque chose, parfois, de très rap. Il y a une, je pense qu'il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 5 ans, on aurait dit c'est rock'n'roll. En fait, Rihanna, c'est presque une pop star rap. Je sais pas ce que vous en ouais. Pensez dans l'attitude, dans l'aura, dans le charisme.
Je suis un peu d'accord avec toi et je voulais ajouter un truc, c'est que moi, la réputation qu'elle avait pour moi, c'est quelqu'un qui ne chantait pas bien en live.
Exactement, tout à fait. Je l'ai jamais vu, mais c'est ce qui se dit aussi.
Voilà, donc c'est pour ça aussi que quand j'étais plus jeune, ben j'avais pas forcément envie d'aller la voir sur scène. Et c'est avec le morceau Love on the Brain qu'on a écouté tout à l'heure. Quand je la vois performer ce morceau-là, je me suis dit en fait j'ai fait une grave erreur parce qu'elle est super forte.
Alors, il y a un album aussi qui s'appelle Rated R, pardon pour mon accent, sur lequel... Ouais, bah c'est pas la peine de se moquer. Sur lequel, on a le morceau. Il s'appelle comment, ce morceau qu'on va écouter? Russian Roulette. Ah. Écoute-toi un extrait. C'est aussi un album qui est plus sombre, celui-ci, où elle choisit un peu plus l'inconfort, elle parle de violence, plus de sexualité aussi. Est-ce que c'est un moment charnière dans sa carrière, ça, Jennifer, ou peut-être qu'elle est plus femme aussi à ce moment-là, en tout cas, et plus complexe.
Oui, elle parle aussi de santé mentale avec un titre, je sais plus lequel, je l'ai sur la langue, mais je me rappelle plus, où elle parle vraiment de ce qui la traverse en tant que femme qui devient adulte. Et dans ce que tu disais sur le côté rap, c'est vrai que moi, je vois Rihanna comme c'est une vibeuse. C'est genre vibes, elle est là, elle danse. Enfin, c'est pas des chorégraphies, mais elle a un truc, en fait.
En fait, elle peut se le permettre,
oui,
parce qu'elle dégage tellement de choses.
Complètement, et c'est vrai que alors aujourd'hui, elle est en couple avec un rappeur, Asap Rocky, et ses enfants. Alors, il me semble que ses deux premiers, les prénoms, sont liés à Wu-Tang Clan.
Exactement.
Donc, elle a vraiment aussi une culture musicale très hip-hop. Donc, ça a complètement du sens ce que tu dis. Et c'est vrai que cet album-là, c'est un album aussi où on voit. Alors, désolé de revenir à chaque fois sur les cheveux, mais c'est pas rien pour une artiste noire. C'est ce moment-là où elle se coupe les cheveux, on voit ses tatouages, elle se fait de plus en plus de tatouages, enfin, il y a un truc affirmé même en termes de style où le côté dark, finalement c'est quelque chose qui la traverse. C'est juste que peut-être on avait pas forcément l'habitude de la voir comme ça, ou c'est pas forcément ce qu'on voulait retenir. Donc on passe de la coupe carrée, Umbrella, très sexy, encore un peu chétive, à cette espèce d'affirmation de la féminité et de la sexualité. Parce que Rihanna, c'est beaucoup ça aussi, c'est assumer complètement une sexualité, ne pas avoir peur de dire les termes, quoi.
C'est intéressant ce que tu racontes, parce que je me souviens d'une intervention de Charlemagne Dagod, qui est journaliste, chroniqueur américain, estampillé rap, même si il peut parler d'autre chose, qui racontait qu'un jour il s'est retrouvé, enfin que Rihanna l'a emmené dans une soirée, et vraiment dans le je sais plus quel coin, mais vraiment très ghetto, avec que des gens qui écoutaient du rap. C'était très très, enfin, un truc vraiment de rappeur, quoi. Où il allait généralement dans ce genre d'endroit avec des rappeurs, et là il était avec Rihanna et qu'elle était complètement à l'aise dans ce milieu-là. Elle vient de ça, en fait. Donc c'est vrai qu'elle a ce côté-là où on a l'impression qu'elle est peut-être plus à l'aise là-bas qu'avec le gratin de la pop. Et je trouve que même, tu parlais d'Instagram, même dans ses tweets, à un moment elle était aussi présente sur Twitter.
Ah oui, Rihanna Twitter.
Ouais.
C'était une erreur.
Non, mais c'était vraiment quelque chose aussi qui.
Je me souviens d'une fois, elle avait râlé parce qu'elle avait pris l'Eurostar de Londres à Paris et elle est arrivée à Gare du Nord et il y avait trop de fans qui avaient bloqué la gare et elle avait mis que des insultes dans le tweet. Genre, les Parisiens, vous êtes complètement fous. Elle avait aucune limite. Aucune limite.
Et je crois que le titre sur la santé mentale, c'est. Pardon, Disturbia.
Voilà.
Voilà. Merci à Redouane, qui est dans mon oreille et qui a.
Je l'avais sur le bout de la langue.
Je sais que tu l'avais, je sais que tu mens pas. On pense qu'on écoute un morceau, on va remonter encore en arrière, mais je voulais qu'on écoute un morceau de musique of the Sun, c'est Them Haters, voilà, parce que j'aime bien l'ambiance de cet album-là. On remet ça et puis juste après, on va vraiment parler d'Anti, donc son dernier album en date.
Do is
Them Haters, donc, morceau présent sur le tout premier album de Rihanna, Music of the Sun.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière. Never so you can have it. You.
Ça, c'est un extrait de Need Me, donc, qui est présent sur Anti, qui fête ses 10 ans aujourd'hui.
Incroyable.
Voilà, exactement 10 ans. Alors, en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et ce qui est incroyable, c'est que cet album-là, qui, au moment, a quand même été apprécié par les fans à sa sortie, mais vraiment a obtenu un statut de classique, d'album culte, et je crois que même de grand album pop. Aujourd'hui, c'est comme ça que les gens le voient, c'est comme ça que aussi bien les fans que les critiques en parlent. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que Anti est aussi grandiose? Qu'est-ce qui fait que cet album a acquis ce statut? Jennifer, je sens que tu bouillonnes, je sens que t'as envie d'en parler.
Parce qu'il est incroyable, tout simplement. Non, mais Anti, c'est un album remarquable pour plein de raisons. Déjà, je pense qu'il a atteint le statut d'album intemporel qu'on peut écouter aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans.
C'est un peu ce que disait Elena tout à l'heure, c'est qu'en fait, il est décoré de l'actualité, il y a des morceaux vraiment qui traversent le temps.
Ouais. Non, c'est ça, et 2016, bon, c'est un cru assez ouf en culture.
Ouais.
Et c'est vrai que Anti, quand il est sorti, il n'a pas eu le succès escompté. Pourquoi ? Parce que...
Il est moins calibré aussi, peut-être.
Il est moins calibré, et je pense que les fans de Rihanna étaient au courant de son range, enfin de son... de ses possibilités artistiques. Alors que les non-fans n'étaient pas au courant de ce qu'elle pouvait faire. Donc quand ils écoutent Anti pour la première fois, ils se disent mais attendez, c'est du Rihanna, on dirait pas du Rihanna, parce que moi j'ai l'habitude d'écouter que des sons hyper commerciaux, hyper pop. Et cet album, il est parfois un peu rock, un peu pop rock, un peu R&B, il y a de tout.
Exactement.
Et en fait, c'est du Rihanna 100%, et j'ai l'impression que ça fait le résumé de toute sa carrière, et effectivement c'était pour les 10 ans de sa carrière. Et c'est vrai que Anti, s'il a été pas forcément plébiscité au départ, très rapidement, en fait, les gens ils se sont dit « Ok, là, on a affaire à une Rihanna de mature. »
Est-ce que pour toi, c'est son premier grand album ?
Je pense que c'est pas forcément son premier grand album, parce que comme tu le disais tout à l'heure, son premier album, il est finalement très bien et il vieillit bien.
Exactement.
Et ça aussi, c'est une preuve de qualité de bien vieillir.
Ouais.
Mais c'est l'album, je pense, qui la représente le plus. Et c'est d'ailleurs elle-même qui le dit, c'est son album préféré. Et c'est l'album où en fait, elle a dit stop. Stop sur de projeter des choses sur moi, stop de me voir comme une personne que je ne suis pas, et c'est pour ça qu'elle coécrit tous les titres. Sur tous les titres, elle est signée dessus. Et c'est vrai que quand on écoute Anti, moi j'écoute une personne qui est dans son autre era, dans son era d'adulte. Et donc on pourra en parler un tout petit peu plus tard, mais c'est aussi ce moment-là qu'elle devient entrepreneur. Absolument. Et qu'elle se dit, c'est pas qu'elle veut plus faire de musique, c'est j'ai envie d'autre chose.
Alors, je crois même qu'elle a dit que c'est le seul album qu'elle pouvait écouter sans avoir honte. Elena, toi qui as même, si je ne dis pas de bêtises, organisé un événement sur Anti dans le passé, enfin, tu as déjà parlé
de
ce disque, exactement. Pourquoi, pour toi, il a obtenu ce statut de disque culte?
Alors,
il y a l'absence aussi sûrement qui joue, hein, le fait qu'elle n'ait plus sorti de morceaux. Mais même indépendamment de ça, je crois que tout le monde est d'accord sur la qualité de cet album.
Il est très bon, et si vous sortez en club encore maintenant, Work, ça passe normalement. Si vous allumez la radio, même si c'est un album qui a été critiqué comme n'étant pas du tout radio-friendly, les radios ne savaient pas quel morceau passer. Finalement, Work passe, Needy and Me, ça passe, Kiss It Better, ça passe.
Absolument.
Il y a des gens même qui sont sur ce projet très important. Bon, Drake d'une part, et on a SZA qui est avant même...
Absolument, qui est sur l'introduction du
Consideration, qui est là avant de sortir son classique à elle, Control, qui sort en 2017. Et comme le disait Jennifer, il y a vraiment toute la palette de Rihanna sur ce projet. Même un son, comme pour moi, qui est très touchant, qui est Close to You, qui est un piano-voix. Et en fait, c'est vraiment la petite sœur de Stay, ce morceau-là.
Ouais.
Et t'arrives nourrir en tant qu'auditeur, toutes tes envies en n'écoutant que ce projet. Et je trouve ça trop fort.
Est-ce que pour toi, cet album a changé quelque chose dans la manière dont tu considères en tant qu'auditeur Rihanna ?
Ah, clairement. Pour moi, c'est mon album préféré de Rihanna.
Ouais.
Et effectivement, je pense que le contexte aussi de l'album, il est intéressant. C'est le premier album qu'elle sort en dehors de la grosse machine qu'elle a connue jusque-là, puisque c'est son premier album hors Def Jam, qu'elle sort via son label Westbury Road, qui fait référence à la rue où elle a grandi en Barbade. Ouais. Donc déjà, l'esprit aussi indépendance qui est en train de s'installer. Et puis, pour tout ce que vous avez dit, le casting, comme tu disais, Sisa, pour moi, il y a presque un passage de témoin, quelque part, puisqu'il y a plein de sonorités qu'on retrouve dans l'album qui étaient déjà explorées par Sisa, tout ce qui est un peu R&B alternatif, psychédélique, etc., qui étaient explorées par Sisa dans son premier EP en 2014, Z. Et je trouve que Anti, c'était une sorte de rampe de lancement aussi pour peut-être nous habituer à ces sonorités-là, qu'on retrouve aujourd'hui dans un projet comme SOS à un autre niveau.
Donc, de César, c'est ça, dernier album en date. Ouais.
Donc il y a plein de choses qui ont été posées. Il y a aussi le côté, tu parlais tout à l'heure, on parlait de l'affiliation hip-hop-rap dans l'esprit aussi. Il y a plein de compos aussi, de grands compos de cette époque-là qui sont sur l'album. Boy Wanda, Hit Boy et d'autres. Et oui, je pense que ça représente, c'est genre vraiment la carte d'identité parfaite de Rihanna. Quoi.
Est-ce que aujourd'hui, puisque bon, elle est absente, est-ce que justement ce silence-là, cette absence-là, est-ce que vous pensez, on en parlait il y a pas longtemps avec Ino Casablanca, on parlait de PNL et de leur absence, qui est, ça fait depuis 2019, c'est un peu plus récent, mais quand même, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir de son côté même une pression ? C'est-à-dire, quand on a fait un album qui est autant célébré, est-ce qu'elle ressent la pression ou est-ce qu'elle s'en fout, qu'elle a juste envie de faire autre chose ? Vous pensez que dans sa tête, il y a quelque chose qui est... Ça va être dur de toper ça quand même.
Évidemment, et il ne faut surtout pas qu'elle revienne.
Ça, c'est toi, t'es, c'est ton avis.
Catégorique.
Je suis d'accord.
Tu aussi ?
Moi, je suis totalement d'accord.
Elle s'est beaucoup amusée sur Anti. Elle a, je crois, c'est 2017, le featuring avec DJ Khaled et Bryson Tiller. Donc, tu vois, elle s'amuse encore. Et ça me va très bien qu'elle fasse ça. Mm-hmm. Il y avait eu un featuring avec Party Next Door en 2020. Oui. Et après, la BO de Black Panther. Super.
Ouais.
Bon, là, elle a fait un truc avec les Schtroumpfs. J'ai pas trop compris.
Mais... Bah, moi, j'ai compris. Hein.
Moi, j'ai compris.
Très bien payé, à mon avis. Hein. Vraiment, la BO des Schtroumpfs.
Donc, si elle fait ce genre de petite apparition, ça me suffit en musique. Je préfère qu'elle fasse de la musique si ça l'amuse encore.
Tu veux pas qu'elle vienne écorner ce disque parfait selon toi?
Je trouve ça génial de finir là-dessus.
T'es comment toi, Jennifer, là-dessus?
Alors, je suis plus au milieu. Pourquoi? Parce que à la fois, je trouve que c'est super si c'est son dernier album, parce que ça pourrait être comme un Miss Education of Lauryn Hill qui a fait un seul album en studio, même si on peut considérer que MTV Unplugged est un deuxième. Et finalement, c'est ça qui fait qu'elle rentre dans la légende, c'est qu'elle a un bon album et ça suffit. Je pense que Rihanna peut terminer sur ça et c'est très bien, sauf qu'il y a des rumeurs quand même depuis quelques années comme quoi elle enregistrerait à Londres, à Paris, un peu en Jamaïque, un peu à la Barbade.
Un album purement dancehall. Enfin,
il y a tellement de choses qui sont en train d'être dites et en fait, entre-temps, elle est devenue mère. Donc elle a beaucoup de choses à raconter. Elle a 37 ans, elle est dans une nouvelle... un nouveau moment de sa vie où elle a vécu plein de choses importantes. Et je pense qu'il ne faut pas forcément penser que les Schtroumpfs, elle a fait que pour l'argent. Elle a des enfants, elle s'est dit.
C'est vrai,
moi,
c'est
j'ai envie de faire kiffer aussi mes enfants. J'ai envie de voir autre chose, de tenter autre chose. Et ça se trouve qu'elle va revenir avec un album qui sera l'album encore d'une autre maturité, celle d'avoir été mère, celle d'être casée, d'être entrepreneur, parce qu'on n'a pas parlé des Fenty, mais Fenty, Fenty Air, les sous-vêtements, enfin, c'est devenu une machine, elle a tout fait, elle a coché toutes les cases, elle a même fait le Super Bowl. Le seul truc qui manque, peut-être, c'est un Tiny Desk, un jour,
on verra. Pas mal.
Mais je pense que ça peut être bien si c'est la fin, mais attendons.
Oui, il y a forcément des choses à raconter. Mais là où tu as raison sur les Schtroumpfs, en tout cas, c'est que souvent beaucoup de même d'acteurs, quand ils commencent à jouer dans des films comme ça, ils disent « Mais en fait, enfin, je joue dans un film que mes enfants peuvent regarder. » C'est peut-être la même chose pour Rihanna. On parle de Rihanna jusque 23h. Tu m'as un peu devancé, mais effectivement, je voulais qu'on parle de Fenty et du Super Bowl. Peut-être commençons par parler du Super Bowl, parce qu'on est encore un peu dans la musique. Donc c'est en 2023 qu'elle joue à la mi-temps du Super Bowl. Personnellement, j'ai adoré cette prestation, tellement iconique, la tenue, elle est enceinte, c'est extraordinaire. Jay, on t'a moins entendu avant, qu'est-ce que t'as pensé de cette prestation de Rihanna qui était effectivement très attendue? Encore une fois, c'est vraiment une des rares prises de parole, en tout cas médiatique, publique, en tout cas quand il s'agit de chanter, qu'elle a fait sur ces 10 dernières années. Comment t'as vécu ce moment pop culture, pour le coup, qui était assez excitant quand même à observer?
Pareil comme toi, j'ai adoré, hein. Franchement, j'étais content de la voir dans ce spectacle-là, dans ce grand spectacle-là, bien mise en scène. J'étais content de l'entendre chanter, de la voir avec ses danseurs, ses danseuses. Rien à dire, j'étais satisfait du medley aussi. Sincèrement, pour moi, c'était un grand moment de musique. Hein.
Et toi, Elena?
Alors, je pense déjà qu'il n'y avait que Jay-Z qui aurait pu la convaincre de faire ça, parce que... J'ai de grands doutes sur le fait qu'elle l'aurait fait si...
Ah ouais, tu penses? Parce qu'effectivement, Jay-Z, pour le repréciser, fait partie des personnes qui décident de qui joue au Super Bowl.
Depuis un deal signé en 2019 avec la NFL. Donc, quand je la vois, je suis très contente. Je vois qu'elle est direct enceinte, donc je comprends que les désirs des gens qu'elle revienne, déjà, faut oublier. Et en plus, en plein milieu de la performance, elle se repoudre le nez avec... un blush, enfin une poudre matifiante, je crois, de chez Fenty, justement. Ouais. Donc, pour profiter, encore une fois, de ce moment-là, pour promouvoir son business à côté de la musique. Donc, j'avais compris que c'était juste un moment suspendu que j'ai adoré, attention, et qu'elle allait très vite revenir, non pas sur scène, mais chez Sephora.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'elle est davantage businesswoman que artiste? Ou que c'est plutôt ça qui l'anime aujourd'hui, au quotidien?
Moi, je pense qu'il faut la laisser tranquille, en fait. Enfin,
non, mais parce que vraiment, je la laisse tranquille. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. Hein.
Pas toi. Mais c'est vrai que, de manière générale, je trouve qu'il y a un peu cette pression de... déjà, d'essayer de voir si elle est encore enceinte, si elle va faire que des enfants, etc. Si elle veut, qu'elle continue, c'est pas grave. Et de deux, je pense que un artiste est pluriel. Enfin, elle a vécu, comme on l'a dit, des eras de sa vie. Aujourd'hui, elle est dans une autre era. Bah, businesswoman, pourquoi? Parce que ça gagne plus que la musique. À un moment, il faut dire la vérité. Et ça a fonctionné pour elle aussi. Fenty, en 2016, c'était un truc de fou par rapport à ce qu'elle a apporté dans l'industrie de la beauté, avec les différentes teintes. Enfin, c'était incroyable à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus normalisé. Et c'est vrai que j'ai juste envie d'attendre, de voir en fait ce qu'elle a envie de faire.
Oui, toi, tu laisses les artistes faire. Voilà, pas d'injonction à revenir.
Elle fait ce qu'elle veut. Et puis surtout, elle a été aussi un peu actrice. On ne sait pas en fait. Ça se trouve qu'elle va nous pondre un album surprise. Ça se trouve, elle va faire un film. Ça se trouve, elle va sortir. J'en sais rien.
Vous aviez regardé le film avec Childish Gambino?
Oui.
Ah oui.
Eh bien, alors, le film n'est pas incroyable, mais il y a la scène où Childish Gambino danse devant Rihanna, que je trouve extraordinaire. Mmh. Je trouve vraiment qu'il y a des très belles scènes dans
Moi, j'aime l'atmosphère du film.
Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui est disponible sur Prime Video? Je trouve que c'est vraiment un très beau moment. Et c'est sorti à peu près à cette époque-là, en fait.
Il vieillit super bien, ce film, d'ailleurs, je trouve.
Exactement. Les images sont belles. Eux sont magnifiques. Ouais. Voilà. Il y a Guava Island. Oui, voilà. Merci, Redouane, dans mon oreille, une fois de plus. mais voilà. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est aussi un moment assez suspendu entre deux des pop stars, quand même, les plus fascinantes de la pop actuelle. Alors, je propose qu'on écoute un morceau. En 2017, sur Dame, Kendrick a invité Rihanna pour le morceau Loyalty. Mais on va pas écouter ça, parce que c'était pas un tube. On va écouter Work avec Drake. Oui, Jay, c'est pour toi, ça. On va écouter Work, véritable tube présent sur Anti. On s'écoute ça et on continue de parler de Rihanna juste après. The nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Up and hell and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You see me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. Tell me about that work, 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 work. Da, 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 da.
against you. I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, why. It's at me, I feel why, why. It's in me, do my da-da-da-da-da. So me by that why, why. When you walk out, la-la-la-la-la. When the girl from my ta-ta-ta-ta-ta.
Yeah, okay. You need to get done, 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 done. At work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done. If you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, 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 work.
It's at me, I feel work, 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 work. You see me do my da, 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 da. So me better work.
C'était donc Work Rihanna featuring Drake à l'époque où ils faisaient encore des morceaux ensemble et c'était donc présent sur l'album Anti.
Mehdi Maizi sur France Inter.
I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I with you, all I get is wild thoughts. Wow.
Alors, on l'a dit effectivement, et notamment Jennifer, tu as commencé à en parler sur la partie entrepreneuse, sur Fenty. En quoi c'est devenu aussi important ? Moi, j'avoue que je n'utilise pas les produits Fenty au quotidien, mais dans quelle mesure ? Est-ce que c'est quelque chose qui marche vraiment ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été adopté ?
Oui, complètement, par le grand public, surtout Fenty, le côté make-up,
ouais.
Après la skincare. Le reste, ça a un peu moins fonctionné, okay. Notamment, plus récemment, à la sortie, une ligne pour les cheveux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis aussi de voir une autre Rihanna qui était connue de ses fans de la première heure.
Ouais.
Il se trouve que Fenty, elle a déposé, c'est sorti en 2016, je crois, elle avait déposé 10 ans avant. C'est pas quelque chose qui débarquait de nulle part.
Ouais.
Et donc, elle avait cette fibre entrepreneuriale depuis jeune, toute jeune. Et c'est vrai qu'on parle quand même d'une personne qui vient d'une île, d'un milieu pas forcément privilégié. Et donc, pour elle, il y a aussi de l'ascension sociale qu'il faut prendre en compte. C'est que
oui.
La carrière musicale, c'est bien,
y a
mais ça
de,
suffit
de
pas.
Rappeur, de rap, ouais. Tu sais. Ouais. Le clairement. Côté, je viens d'en bas et je suis content de réussir. Et puis même le côté entrepreneuse assumée, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans le rap, Jessa.
Totalement, totalement. Et c'est marrant parce qu'il y a un morceau qui est sorti en 2015, juste avant d'ailleurs Anti. Elle a sorti 3 singles cette année-là. Il y avait un morceau qui s'appelait American Oxygen.
Oui.
Et qui parlait justement de ce rêve américain et de l'idée d'ascension, etc. Donc c'est vrai qu'elle a toujours eu ce mental-là qui est propre au hip-hop aussi à fond.
Elena, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Parce qu'on a parlé d'une artiste iconique, évidemment. Elle a des albums importants. On parle beaucoup d'Anti, qui est, je crois, aujourd'hui vu comme un classique. Aujourd'hui, pour toi, c'est une icône. Est-ce que c'est encore quelqu'un qui influence la pop culture aujourd'hui, en tout cas sur la partie musicale ? Est-ce que tu la sens encore influente aujourd'hui ?
Totalement.
Ouais.
Il y a quelques mois de ça, en fait, le peu d'interactions que Rihanna va donner, c'est important.
Ouais.
Si elle dit « j'aime ça », ok, il faut écouter Rihanna, elle aime ça. Et récemment, elle avait dit qu'elle aimait beaucoup Maria the Scientist et le oui. morceau Burning Blue. Et elle a dit ça vraiment dans une précipitation. On lui a tendu un micro, elle a lâché ce titre
ça, ouais.
Et c'était tout. En fait, quand elle donne son avis, peu importe le domaine, son avis compte. Quand elle fait du make-up, son avis compte parce qu'on sait son style et on sait qu'elle s'y connaît. Et quand elle fait même Savage Fenty,
Savage.
Voilà, donc ça c'est des sous-vêtements. En fait, elle casse tellement les codes en ramenant des corps différents, des femmes racisées et en offrant quelque chose qui n'existait pas sur le marché que Victoria's Secret se retire. et ne fait plus de défilé. Donc c'est que vraiment tout le monde l'écoute et partout.
Oui, ouais. c'est même indépendamment, et c'est vrai que c'est ça qui est important, indépendamment même de sortir de la musique, sa voix reste même encore plus importante qu'à l'époque où elle était extrêmement présente. Mmh. En fait, à l'époque où elle occupait les tabloïds, les charts, elle est beaucoup plus impactante aujourd'hui quand elle prend la parole finalement.
C'est ça.
Rihanna qui danse sur Jack, Ayana Kamura, c'était quelque chose. Ouais. Aussi.
C'est vrai qu'il y a eu ça aussi.
C'était quelque chose.
On attend le feat.
Claire.
On attend le feat. Bon, on a essayé de parler de la carrière de Rihanna, mais là, j'aimerais qu'on garde un peu de temps pour la question qui tue.
Ferme.
Ouf. Réfléchissez bien, attention. On a un peu de temps, donc vous avez le temps de développer. Si vous deviez chacune, résumer Rihanna en un morceau, vous choisissez un morceau, c'est lequel ? Jennifer, Jay. Bon, Jay, on sait qu'il met du temps pour choisir.
Je lance.
Ah, tu l'as, vas-y, Jay, je lance alors.
C'est ma réponse. C'est ta réponse. Mon interprétation.
Non, y a pas de... Personne n'est là pour te juger.
Je vais citer un morceau que j'adore, qui est pour moi un des meilleurs duos du R&B des années 2000 et peut-être plus encore, qui est Hate That I Love You avec Ne-Yo.
Wow.
Qui est une chanson extraordinaire, tellement belle, tellement bien écrite, qui parle de sentiments contraires. J'adore cette chanson. Je trouve que l'alchimie entre les deux est extraordinaire, c'est trop bien interprété, et moi, c'est la Rihanna que je préfère.
La Rihanna R&B, parce que toi, t'es aussi... R&B. On rappelle que tu...
Je suis à propos de ça.
Voilà, t'as créé le média R&B Renaissance.
Je pouvais pas partir sans avoir placé au moins ça.
Oui, mais c'est important. Ne-Yo, d'ailleurs, aussi, qui est évidemment un chanteur de R&B important, qui écrivait, qui a commencé vraiment en écrivant pour beaucoup de personnes, qui a écrit aussi pour Rihanna, si je ne dis pas de bêtises. Fait partie des auteurs qui contribuent notamment sur ses premiers albums à travailler avec elle. Totalement. Jennifer.
C'est vraiment la question qui tue.
Ah oui.
Mais, si je réfléchis bien, je pense que je dirais Man Down. C'est incroyable. Enfin, tu mets ce son, déjà t'es obligé de danser, tu connais les paroles, elle rappe, il y a les sonorités caribéennes, dancehall, tout. Enfin, il y a tout en fait dans ce son, et c'est l'époque cheveux rouges, qui est une grande époque.
Toi, tu l'affiches vraiment par rapport à ses cheveux, je vois que c'est important. Jay disait qu'il préférait, enfin il avait une préférence en tout cas pour la Rihanna R&B. Est-ce que toi, il y a dans tout ce qu'elle a fait, est-ce qu'il y a une Rihanna pour laquelle t'as plus d'affection?
Je pense que j'ai beaucoup d'affection pour la Rihanna sentimentale quand elle chante, parce que effectivement c'est pas là où on l'attend le plus au premier abord, et à chaque fois en fait ça m'émeut parce qu'il y a quelque chose de très très beau, très très sensible et vulnérable de sa part, et je trouve que son persona public n'est pas forcément associé à quelqu'un de vulnérable, et du coup je trouve que dans ces moments là on lui autorise en fait à être elle en fait, et du coup je trouve que des sons comme Diamonds, Stay, Need In Me, enfin c'est vraiment des chansons qui, où des gens voient qu'elle chante très bien, et je trouve il y a quelque chose de fort dans ce qu'elle raconte et dans ce qu'elle propose.
Elena, toi, est-ce que t'as un morceau?
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Ouais. C'est compliqué d'arriver derrière vous parce que je partage vos avis respectifs. Un titre que j'ai cité tout à l'heure, c'est Close to You, justement parce que j'ai eu ce cliché de elle ne sait pas très bien chanter, alors que sur un piano voix, elle est intouchable. Ouais, ouais, ouais. Donc Close to You.
C'est un peu quelque chose que tu partages avec Jennifer, ce côté finalement sentimental et qu'elle arrive vraiment à procurer de l'émotion quand elle chante vraiment.
J'adore cette partie-là d'elle, et sinon mon côté Atlanta me dirait Love Song avec Future.
Sur Unapologetic, l'avant-dernier album, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
En 2012. Bon, alors vu que tu l'as cité et que je crois que vous êtes un peu d'accord, au moins toi, Elena et Jennifer, on va s'écouter un extrait de Man Down. And I took his heart with him. I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, mama, mama, mama. On va se quitter là-dessus. Ça, voilà, c'est pour donner envie aux gens d'aller écouter le morceau en entier. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Elena.
Merci à toi, Mehdi.
On rappelle
trop cool.
Le podcast Remember the Times, vraiment, que allez toutes et tous l'écouter. Jay, merci beaucoup. R&B Renaissance,
beaucoup.
Toi, on suit sur les réseaux. Jennifer Padjimi, merci beaucoup d'avoir été présente. Rappelle, tu es journaliste, critique culturelle, autrice. Voilà, il y a plusieurs livres que vous pouvez aller lire, notamment Féminisme et Pop Culture, qui était excellent. voilà. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous trois. Merci à Rihanna. Moi j'attends un nouvel album, voilà, je le dis, j'en rêve. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission qui était préparée par Alexia Lacour, Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir c'était Laurent Baudouin et Mathias Alléon. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, et c'est pas une blague, demain on reçoit Thundercat dans l'émission. Ouh. Oui c'est réel, oui c'est réel.
Ok, ok.
À demain
on
même
revient.
Heure.
On revient.
On dort là.